RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique Mon Indonésie. La rubrique suivante est le magazine culturel et apprendre l'indonésien. Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « L'Indonésie et le Japon ont tenu une réunion du 6e dialogue stratégique. 14 entreprises indonésiennes profitent des opportunités en Afrique. La transaction du café indonésien atteint 80 milliards de roupies dans World of Coffee. Le ministère indonésien de l'Industrie et du PNUD de synergie pour réduire les déchets en plastique. Puis le vice-président Yusuf Kala encourage le commerçant à utiliser le commerce électronique. Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Retno Marsudi, a reçu une visite du ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, le lundi 25 juin à Gedung Pancasila, le ministère des Affaires étrangères Jakarta. La première visite du ministre Taro Kono en Indonésie vise à mettre en œuvre la 6e réunion du dialogue stratégique entre l'Indonésie et le Japon, qui coïncide avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Japon. Selon un communiqué de presse reçu par la Voix de l'Indonésie, la réunion a pour but de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la politique et de la sécurité, de l'économie, du commerce et des investissements, des relations interpersonnelles, et d'explorer les possibilités de coopération stratégique entre les deux pays. Les deux ministres des Affaires étrangères ont discuté également des questions régionales et mondiales qui concernent les deux pays. Ils ont convenu d'explorer la possibilité de faire l'Indonésie comme une base de production pour les produits manufacturés japonais destinés au marché tiers, y compris les marchés des pays de l'ASEAN. Auparavant, le président Joko Widodo a reçu le ministre japonais des Affaires étrangères au Palais Merdeka, Jakarta. Lors de la réunion, le président espère que cette visite renforcera davantage la coopération entre les deux pays. La deuxième nouvelle, l'ambassade de l'Indonésie à Pretoria est le centre de promotion du commerce indonésien du ministère du Commerce à Johannesburg ont participé à l'exposition des sept grands d'Afrique qui s'est tenue du 24 au 26 juin au Gallagher Estate, Midrand, Johannesburg, l'Afrique du Sud. Selon l'ambassade d'Indonésie à Pretoria cité par Antara, dimanche 24 juin, des échantillons de produits indonésiens provenant de 14 entreprises remplissent 10 stands indonésiens. Dans le discours d'ouverture du stand de l'Indonésie, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Afrique du Sud, Salman Al-Farisi, a déclaré que les relations économiques actuelles entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud ne reflétaient pas encore le potentiel existant dans le pays. Afrique du Sud et l'Indonésie sont des pays importants dans leurs régions respectives. Et selon lui, les entrepreneurs indonésiens, qu'ils soient grands, moyens et petits, devraient utiliser l'ambassade indonésienne et le centre indonésien de promotion du commerce pour encourager les exportations indonésiennes à l'étranger. La troisième, la valeur transactionnelle du café indonésien dans World of Coffee, Amsterdam, les Pays-Bas, du 21 au 23 juin équivaut à 80 milliards de roupies. Le premier secrétaire des affaires économiques de l'ambassade de la République d'Indonésie à La Haye, Nur Effi Rahmawati, a déclaré que cette valeur était obtenue à partir des accords commerciaux entre les exportateurs indonésiens avec des entreprises de différents pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse, la Biélorussie et certaines entreprises d'Amérique du Sud, comme le Brésil et le Chili. Nur Effi Rahmawati a déclaré à Antara News dimanche 24 juin que le type de café qui était en demande varie, comme Robusta Lampung, Arabica Gayo et Toraja. La participation de l'Indonésie dans World of Coffee 2018 est le résultat de la synergie de l'ambassade de la République d'Indonésie à La Haye, l'ambassade d'Indonésie au Bruxelles et le représentant permanent de la République d'Indonésie à Genève, soutenu par la participation des associations, des entreprises et des exportateurs de café indonésiens. Cette collaboration devrait augmenter la valeur des exportations de café de l'Indonésie vers l'Europe et le monde. Et la quatrième nouvelle, le ministère de l'Industrie, en collaboration avec l'Agence des Nations Unies pour le développement ou le PNUD, invite toutes les parties en Indonésie à se mettre en synergie pour réduire la pollution plastique. Dans sa déclaration officielle, le PNUD estime qu'il y a 13 millions de tonnes de déchets en plastique qui est déversé dans l'océan et perturbe en l'environnement dans le monde chaque année. Par conséquent, la gestion des déchets plastiques est une responsabilité du gouvernement, du secteur privé et la communauté. Le chef de la recherche et du développement industriel du ministère de l'Industrie, Ngakan Timur Antara, a dit à Jakarta dimanche 24 juin qu'en général, les efforts pour réduire les déchets plastiques pouvaient être faits de trois façons, à savoir de minimiser l'utilisation de produits en plastique jetables, d'utiliser des matériaux alternatifs qui se décomposaient plus facilement et recycler les déchets plastiques en bien de valeur économique. Selon lui, il y aura plus de technologies à l'avenir qui peut aider à résoudre le problème de plastique. La dernière, c'est le vice-président Yusuf Kalla a demandé aux commerçants de Bugis Makassar d'utiliser le commerce électronique pour améliorer et développer leurs affaires. Le monde des affaires a subi un changement de système en ligne dont les commerçants Bugis Makassar peuvent suivre le changement. le développement technologique avancé et le développement du commerce électronique devraient être une préoccupation. Cela a été déclaré par Youssouf Kala à l'ouverture de la 18e réunion des commerçants de Bugis Makassar à Makassar dans le sud de Sulawesi, dimanche 24 juin. C'était la réunion d'entrepreneurs du sud de Sulawesi qui sont en Indonésie et à l'étranger et établissent une synergie du potentiel d'affaires dans l'amélioration de l'économie nationale.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonjour à tous, voici le commentaire intitulé « L'œuvre d'art, la source de l'unification de la nation ». Faire des œuvres d'art comme la source d'inspiration pour l'unir la nation, unifier les tribus existantes dans cette nation, faire d'art comme la source d'énergie de civilisation de la nation, c'était le message du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, lors de la fermeture d'une conférence publique sur le campus de l'Institut d'art de l'Indonésie de Denpasar samedi. Le président Joko Widodo a livré le message dans sa conférence générale intitulée « L'enfoncement de l'art Nusantara » dans le maintien de la diversité et de l'unité de l'Indonésie. La présentation d'art est présentée dans le cadre du 40e Festival des arts de Bali qui se tiendra pendant un mois en exposant divers arts, y compris de l'étranger. Mais il y a un message plus profond pour que le peuple indonésien continue à explorer, maintenir et développer les arts. L'Indonésie, qui a 714 tribus, a certainement beaucoup d'arts. Selon les données du ministère de l'Éducation et de la Culture de l'Indonésie en 2015, il existe plus de 5700 arts de différents types. Malheureusement, dans toute l'Indonésie, il y a au moins 58 arts de la danse et 33 arts de la musique qui ont presque disparu. Et il y a encore des arts régionaux qui craignent le nombre va diminuer. La perte de l'art indonésien réduira certainement le caractère de l'Indonésie. L'Indonésie est si vaste. Chaque région a un art qui est devenu sa marque. Cette diversité est l'un des avantages de la nation indonésienne qui n'appartient pas à d'autres nations et pourrait devenir une attraction non seulement parce qu'il y a une valeur culturelle, mais aussi en raison de la valeur de l'économie créative. Les efforts pour développer les arts de l'Indonésie ne sont pas seulement la tâche du gouvernement. On souhaite que les artistes, les étudiants ou les étudiants en arts spéciaux puissent produire des œuvres d'art. En explorant la richesse culturelle de la nation et en renforçant la sagesse locale. Il devrait être plus de possibilités et de facilités qui sont ouvertes à divers groupes pour introduire leurs œuvres et il doit avoir une coopération avec de nombreuses parties pour promouvoir davantage les arts de l'Indonésie. Par exemple, en enregistrant plus d'art indonésien à l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture ou l'UNESCO, ainsi le sentiment d'appartenance n'est pas seulement dans certains groupes ethniques, mais appartient à la nation entière de l'Indonésie. et les œuvres deviennent l'identité de la nation indonésienne. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir à tous. Voici le programme de l'histoire d'aujourd'hui de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Le 25 juin 1938, le congrès de Bahasa Indonesia ou l'Indonésie a eu lieu à Solo, Java Central. Il y a 77 ans, un certain nombre de journalistes, des étudiants, des enseignants et des intellectuels ont réuni à Solo, Java Central. Ils ont tenu le congrès de Bahasa Indonesia ou l'Indonésie pour réaliser le congrès de la jeunesse 1928 qui a convenu que le Bahasa Indonesia est la langue de l'unité. L'initiateur du congrès est Raden Mas Sudarjo Cokro Sisworo, le journaliste du quotidien Suara Umum Surabaya. Les dirigeants qui sont actifs dans ce congrès sont Sanusi Pane, Ki Hajar Dewantara, Perdi, Amir Sharifuddin et Muhammad Yamin. Le congrès a été ouvert par le président du comité, Dr. Purbacaraka. Environ 500 personnes ont assisté à l'ouverture de ce congrès, y compris des représentants du sultan de Yogyakarta, Sunan Solo, Paku Alam, Mangkunegara, la presse indonésienne et des représentants de Java Institute. Le 25 juin 1950, le début de la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud dans la péninsule. La Corée du Nord traverse la 38e ligne parallèle qui divise leur pays. Le navire chargé de soldats nord-coréens est entré dans la ville portuaire de Busan en Corée du Sud. La violation et l'atterrissage des troupes nord-coréennes marquent enfin la guerre dans la péninsule coréenne. Le président américain, Harry Truman, a demandé à une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les attaques et la situation politique dans la péninsule coréenne. L'Amérique et d'autres pays occidentaux ont profité de l'absence de l'Union soviétique dans le conflit coréen. Donc, l'Ouest a envoyé ses troupes sous le commandement du général Douglas MacArthur pour soutenir la Corée du Sud. Bien que non soutenue par l'Union soviétique, la Corée du Nord a finalement reçu un soutien officiel de la Chine. La guerre de Corée est une guerre idéologique entre le régime communiste de la Corée du Nord, la Corée du Sud étant le pro-occidental. Le cessez-le-feu a été signé 3 ans plus tard pour arrêter cette guerre. Le 25 juin 2009, la mort de Michael Jackson. Michael Joseph Jackson est né à Gary, Indiana, les États-Unis, le 29 août 1958. Il est décédé à Los Angeles, Californie, les États-Unis, le 25 juin 2009, en raison de problèmes cardiaques à l'âge de 50 ans. Michael Joseph Jackson est un chanteur et écrivain des États-Unis. Il est célèbre comme King of Pop et popularisé le mouvement de danse Moonwalk. Son album, sorti en 1982, Thriller, est l'album le plus vendu au monde avec des ventes de plus de 104 millions d'exemplaires dans le monde. Il a commencé sa carrière de chanteur à l'âge de 5 ans en tant que membre du groupe vocal de la famille Jackson, ou communément appelé The Jackson 5. Avant de lancer son premier album solo, Got to Be There, en 1971. Il a remporté de nombreux prix, y compris Guinness World Record, Thriller en tant que l'album le plus vendu au monde et 13 Grammy Awards. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Tous les auditeurs, encore avec moi Tiwi, dans le programme de mon Indonésie, dont le titre d'aujourd'hui est « Le président a inauguré la révision du texte sur les micro, petites et moyennes entreprises 0,5%. Le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, a publié la réglementation gouvernementale numéro 23 de 2018 concernant l'impôt sur le revenu des entreprises reçues ou obtenues par les contribuables ayant une circulation brute à Java de l'Est Expo, Surabaya, la province de Java de l'Est, vendredi le 22 juin 2018. Environ 2000 micro, petites et moyennes entreprises de Java de l'Est ont assisté à cette cérémonie de lancement. Le point principal de la règle est la réduction de l'impôt sur le revenu final de micro, petites et moyennes entreprises de 1% à 0,5%. Directeur du Conseil du Service et de la Relation publique de la Direction générale des impôts du ministère des Finances, Hestu Yoga Saksama, dans sa déclaration écrite vendredi 22 juin, a mentionné que la réglementation gouvernementale lancée par le président est ainsi qu'un substitut de la réglementation gouvernementale numéro 46 de 2013. Ce nouveau règlement du gouvernement entre en vigueur le 1er juillet 2018. Hestu Yoga a expliqué que le règlement gouvernemental numéro 23 de 2018 régit l'impôt sur le revenu final pour le contribuable dont le chiffre d'affaires brut atteint 4,8 milliards de roupies par an. Ce règlement inclut également la durée du taux de l'impôt sur le revenu final pour le contribuable individuel pendant 7 ans, le contribuable sous forme de l'agence de coopération, commanditaire Fenotscap, pendant 4 ans, et pour le contribuable de la société à responsabilité limitée pour 3 ans. L'objectif du règlement du gouvernement numéro 23 de 2018 est d'encourager de micro, petites et moyennes entreprises à jouer un rôle de plus en plus actif dans les activités économiques formelles. La Direction générale de la fiscalité espère également, par des taxes plus légères, des micro, petites et moyennes entreprises puissent développer leurs activités et faire des investissements. Pendant ce temps, le membre de la Commission 11 de la Chambre des représentants, Miss Bahun, évalue que la politique du gouvernement de réduire l'impôt sur les revenus finaux des micro, petits, moyens et entreprises montre la proximité du président Joko Widodo aux petits entrepreneurs. Il considère que le président est très préoccupé par le secteur de micro, petites et moyennes entreprises. Il estime que la réduction des taux d'imposition de 1% à 0,5% permettra de maintenir les flux de trésorerie de micro, petites et moyennes entreprises et de développer les affaires de manière plus optimale. Il espère également que les hommes de micro, petit et moyen entreprise deviendront de plus en plus des contribuables proactifs et deviendront plus responsables dans l'exécution de leurs obligations fiscales. Selon lui, de micro, petite, moyenne entreprise devenant des contribuables ont beaucoup d'avantages et de commodités. Voilà mon Indonésie d'aujourd'hui.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai shine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans le Magazine Culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Nusa Tenggara de l'Est. Chers auditeurs, si vous entendez Nusa Tenggara de l'Est, les sites touristiques qui viennent généralement à notre esprit sont le lac Kelimutu et l'île de Komodo. Mais essayez-vous de visiter la ville de Tambua, la région Sebelu, et vous pouvez trouver un site touristique Kolam Susuk ou l'étang de Susuk. À ce site touristique, vous pourrez profiter des magnifiques paysages naturels. Autour de lui, vous regardez les hautes falaises. Là-bas, il y avait des arbres kedongdong ou spondia et les mangroves qui rendent l'air frais malgré le soleil brillé. Kolam Susuk est riche en poissons, en particulier les chanons. Depuis les jadis, le site touristique sous la forme de l'étang à poissons est déjà utilisé par les résidents locaux et les résidents environnants pour profiter de l'atmosphère naturelle et aussi les résultats de pêche des chanons dans cet étang. Dans la langue locale, l'étang de Susuk signifie le nid de moustique parce que ce site touristique est entouré par les forêts de mangroves denses. Donc, il y a beaucoup de moustiques autour de cet endroit. Cet étang est formé naturellement et avoir un fond blanc de sorte que s'il est exposé la lumière du soleil, ses œufs reflétaient la lumière blanche comme du lait. Ceci est la raison pour laquelle maintenant le nom de cette attraction est plus souvent appelé l'étang de lait. Kolam Susuk ou l'étang de Susuk est situé au village Junelu, sous communauté Kukuluk Mesak, la région de Belu, ou environ 17 km du nord de la ville de Tambua, la région de Belu. De Tambua, Kolam Susuk peut être accessible en 20 minutes pour les véhicules à 4 roues. Le voyage à l'aide de moteur qui prend le temps d'environ 30 minutes. La route était sinueuse de haut en bas à travers le vallée et la falaise, mais le chemin était asphalté. Habituellement, cet endroit est bondé le week-end ou les jours fériés. Les communautés locales et le gouvernement continuent de se développer comme une attraction touristique ainsi que de l'utiliser comme centre de la pisciculture des chanons et l'élevage de crevettes afin que l'environnement autour de Kolam Susuk puisse être bien maintenu. Donc, pour ceux d'entre vous qui aiment la pêche tout en profitant de la belle beauté naturelle, s'il vous plaît, vous visitez Kolam Susuk à Atambua, en Provence de Nusa Tenggara de l'Est. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Kolam Susuk. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité et à très bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de la radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence de développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est « Dia adik laki-lakiku ». Je répète, dia adik laki-lakiku, qui signifie il est mon petit frère. Allons-y! Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée dia adik laki-lakiku. Dia adik laki-lakiku, qui signifie il est mon petit frère. Le dialogue est dans le salon de la maison de Joko. Tony regarde l'album photo de mariage de Joko et Dinda. Et dans cet album, il y a une photo de la famille de Dinda. Tony, foto keluarga siapa ini? Dinda. Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ibuku. Tony. Oh, lalu yang berkumis itu kakakmu? Dinda. Bukan, dia adikku. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, dia adik laki-lakiku, ou en français, il est mon petit frère. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez le répéter après moi. Foto keluarga siapa ini? Foto keluarga siapa ini? Qui signifie cette photo de famille est à qui? Itu foto keluargaku. Itu foto keluargaku. C'est la photo de ma famille. Itu ayah dan ibuku. Itu ayah dan ibuku. En français, c'est mon père et ma mère. Berkumis. Berkumis, qui signifie avoir une moustache. Yang berkumis itu kakakmu. Yang berkumis itu kakakmu. Qui signifie celui qui a une moustache, il est ton grand frère. Dia adikku. Dia adik laki-lakiku. Qui signifie il est mon petit frère. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Kakakku yang di samping kiri ibuku. Qui signifie mon grand frère est celui qui est à gauche de ma mère. Dans le dialogue, vous entendez dia adikku. Je répète, dia adikku. Ce qui signifie il est mon petit frère. En indonésien, le terme pour les frères et sœurs qui sont plus âgés est kakak. Kakak, qui signifie le grand frère ou la grande sœur. Tandis que pour les frères et sœurs qui sont plus jeunes, est adik. Adik, qui signifie le petit frère ou la petite sœur. Et si vous voulez ajouter des informations, vous pouvez dire dia kakak perempuan saya. Dia kakak perempuan saya. En français, elle est ma sœur. Si vous parlez de votre famille, vous pouvez dire kakak saya yang perempuan akan menikah. Kakak saya yang perempuan akan menikah. Qui signifie ma grande sœur va marier. L'expression kakak saya yang perempuan, kakak saya yang perempuan, montre que vous avez le grand frère et la grande sœur. En outre, dans le dialogue, il y a le mot berkumis. Berkumis, qui signifie avoir une moustache. Le mot berkumis est un dérivé du mot kumis, qui signifie une moustache, plus préfixe indonésien ber. Le préfixe ber dans le mot berkumis signifie punya ou avoir. Donc, berkumis signifie avoir une moustache. Les autres exemples. Berambut hitam. Berambut hitam. Qui signifie avoir les cheveux noirs. Bermata coklat. Bermata coklat. Qui signifie avoir les yeux bruns. Berhidung mancung. Berhidung mancung, qui signifie avoir le nez pointu. Et berjenggot, berjenggot, qui signifie avoir une barbe. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Dinda. Foto keluarga siapa ini?
Itu foto keluargaku. Itu ayah dan ibuku.
Oh, begitu. Lalu yang berkumis itu kakakmu?
Bukan, dia adikku. Kakakku yang di samping kiri ibuku.
Après avoir écouté la conversation, je vais vous donner un exercice en utilisant des mots que nous avons déjà appris. L'exercice est décrivez votre maison en montrant votre adresse, la couleur de votre maison, le nombre d'étages de la maison, si plus d'un étage, et quelque chose autour de la maison comme des arbres, des clôtures, etc. Par exemple, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih. Dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya mempunyai 2 lantai. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un euro gagnant et le gagnant sera annoncé en novembre 2018. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir tous les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter les chansons de Kroncong chantées par une chanteuse indonésienne s'appelle Dewi Yul. Écoutons maintenant la chanson intitulée Kini Baru Kau Rasa.
Bayang-bayang
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Dewi Yul dont le titre est « Kini baru kau rasa » qui signifie « Maintenant tu viens de sentir ». Cette chanson a été créée par Amin Iwos et elle a été popularisée par Dewi Yul en 1993 dont le genre est pop. Et ensuite, elle a été chantée à nouveau par Dewi Yul dont le genre est keroncong. Cette chanson est devenue l'une des chansons de l'album de pop keroncong publié en 2010. Bon, chers auditeurs, la chanson suivante à écouter, intitulée Jembatan Merah, qui signifie Le Pont Rouge. Voilà la chanson s'intitule Jembatan Merah, chantée par Dewi Yul. Contrairement à la chanson précédente, cette chanson est une chanson originale de genre keroncong créée par Gesang, un maestro de keroncong d'Indonésie. Cette chanson parle d'un pont où quelqu'un y a des souvenirs. Ce pont rouge le rappelle de séparation avec la personne qu'il aime. Et chers auditeurs, Dewi Yul, dont le nom complet est Raden Ayu Dewi Pujiati, a commencé sa carrière dans le monde du divertissement en 1970. Elle a remporté le premier prix du concours de chant de Java de l'Ouest. Dans la même année, elle a remporté la quatrième position du concours de chant de niveau national. En plus d'être une chanteuse, elle est également une actrice de cinéma et de feuilleton. Elle a souvent chanté en duo avec Bruri Marantika. Alors, chers auditeurs, on termine notre édition cette fois en écoutant une chanson de David Yule intitulée December Clabou ou en français Le Gris Décembre. Bonne écoute et à la prochaine! Chers amis, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Avant de terminer cette émission, nous présenterons les musiques indonésiennes. Merci à tous et à bientôt!
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.